C'est notre rendez-vous hebdomadaire avec un jour un livre, un auteur. Ils sont en studio comme toutes les semaines, ils sont à l'heure. C'est Philippe Nonni et Diego Arrabal, bonjour.
Bonjour Gilles.
Bonjour Philippe.
Diego.
Eh ben,
vous revenez à vos premiers amours.
Je reviens à mes premières amours, le polar, avec un invité au téléphone aujourd'hui.
J'étais inquiet, ça faisait longtemps que vous avez
Oui, ça faisait longtemps, mais c'est parce qu'il n'y a pas vraiment énormément de très bons polars, donc je suis beaucoup plus sélectif. Donc là, on reçoit un auteur qui s'appelle Philippe Paternoli pour nous parler de son dernier roman qui s'appelle La mort imaginale, on développera tout à l'heure, qui est paru aux éditions du Caïman. Et nous allons pouvoir en parler. Bonjour Philippe.
Bonjour Diego.
Bonjour.
Alors, bonjour Philippe.
L'autre Philippe. Comme d'habitude, là pour une fois, on est avec Gilles qui est notre technicien, mais parfois il y a un autre Philippe qui est à la technique. Donc là, ça aurait fait trois Philippe et un pauvre Diego tout seul, quoi. Donc on va parler de la mort imaginale. Donc moi, je l'ai lu et ça m'a donné l'idée d'un petit texte. Donc je vais vous le soumettre, Philippe, et puis vous me direz, vous réagirez dessus, plus ou moins violemment, c'est à vous de voir.
D'accord.
Vous avez le droit de raccrocher aussi, hein, si vous n'êtes pas satisfait, Philippe. Hein, ouais.
La mort imaginale de Philippe Paternoli aux éditions du Caïman. Un couple, trois identités, trois mues. Un seul récit, trois lieux. Marseille, le Pays de Galles et la montagne Sainte-Victoire. Un aller-retour dans le temps entre 2009 et 2019 en une course contre la mort haletante. Aux trousses du couple, Dédé De Rocca, parrain marseillais en perte de vitesse, les frères Gentile, au croc acéré, et surtout Marco Szabo, un gangster ultra-violent serbe totalement fou. Et dernier, c'est le colonel Thierry de Cossé-Brissac, un des cadres du CUB, un des services anonymes des renseignements français. Pourquoi tant d'acharnement ? Parce qu'Olivier, alias Martin ou Eric, un génie en informatique, avait permis de faire plonger les premiers cités, mais il avait aussi imprudemment subtilisé 1 milliard d'euros à la Banque de France. Excusez du peu. Dans ce roman à tiroir, Philippe Paternoli nous emmène dans une traque vertigineuse où le gibier n'est pas toujours celui qu'on pense. Tour à tour proie ou prédateur, Olivier, Martin, Eric ne baissent jamais la garde. Et le lecteur se prend à soutenir cet escroc tant ses adversaires sont sournois et brutaux. C'est tout le talent de l'auteur de nous piéger aux côtés d'un malfrat, de nous faire trembler avec lui et sa compagne en constatant l'approche des tueurs. Les cadavres se multiplient, le sang coule en rivière carmin, l'incendie s'étend. Philippe Paternoli transforme le massif de la Sainte-Victoire, dont il est un familier, en un vaste théâtre antique où se déroule une tragédie grecque violente et démesurée. Un beau polar qui accroche le lecteur du début à la fin. Voilà mon cher Philippe. Alors, mort imaginale, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce titre ?
Ah, ça fait référence à la vie des cigales. Alors, Diego, vous avez dit que j'étais un familier du massif de la montagne Sainte-Victoire, donc c'est la Provence, donc les cigales. Et les cigales, quand on les entend cymbaliser, c'est le vrai terme et non pas chanter, c'est leur dernière mue. Et cette dernière mue, ça va leur permettre de se reproduire et de mourir. Et c'est la mue imaginale. Et de là, par analogie, j'ai appelé ce roman « La mort imaginale », puisque pour mes héros, ça sera peut-être aussi la dernière mue où ils vont se reproduire et mourir. Peut-être, si je ne dis pas tout quand même.
Non, il ne faut quand même pas tout déflorer. Le CUB est quand même une instance, hein, c'est un service et une instance des renseignements français vous avez longtemps utilisé dans pas mal de vos romans, puisque vous aviez notamment le commissaire Ernaud qui était un des membres de cette
Oui.
De cette, cette officine. Oui, ouais, c'est plus une officine qu'autre chose.
Là, oui, c'est un cabinet noir, une officine.
Voilà.
Ouais.
Là, on a un autre personnage qui apparaît, le colonel Thierry de Cossé-Brissac. Donc, vous ne le laissez pas tomber, ce cube. Il est toujours là.
Oui. Quasiment tous mes bouquins qui ont été publiés par le Caïman, donc les 8 de la... Il y en a 8, hein, de la série Erno, ça pourrait en fait s'appeler Le Cube. C'est les aventures du cube. Encore, je me demande s'il y en a un où on ne retrouve pas cette officine. Oui, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, les coups tordus. J'ai commencé à écrire des polars il y a longtemps, hein, dans les années 90, presque en écoutant l'émission de France Inter Rendez-vous avec X.
Ah oui.
Avec tous les coups tordus, les histoires d'officines, de cabinets noirs, d'espions, de coups de billard en trois bancs, de voir plus. Ouais. Et moi, j'étais biberonné à ça. Et finalement, ouais, mon cube, c'est un peu ça, quoi. C'est une sorte de cabinet noir.
Ouais. Ouais. Il faut dire que c'était une émission mythique et qu'on peut retrouver d'ailleurs sur un des canaux de diffusion, puisqu'on peut les retrouver et les réécouter à la fois sur l'INA d'un côté et puis sur un grand canal de diffusion qui commence par You et qui continue par autre chose, mais je ne vais pas lui faire de pub. Et on retrouve les émissions Rendez-vous avec X et on peut les podcaster et les écouter grand plaisir. Et c'est vrai que c'était quand même une très très belle mise en scène. Donc effectivement, on retrouve un peu cette ambiance-là dans votre roman. Mais
oui, aussi. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de mettre comme personnage principal et central un escroc ?
Je sais pas trop. En fait, c'est un escroc, mais c'est un escroc malgré lui. En fait, c'est un jeune.
Enfin, il a quand même décidé de subtiliser 1 milliard d'euros, hein.
Ah, mais oui, mais au départ, peut-être qu'il attendait. Je sais pas trop. Enfin, c'est un jeune couple, hein, c'est un jeune couple qui vit à Marseillais. Ils sont très modestes. Lui est très doué en informatique, mais il n'arrive pas à trouver un vrai boulot.
À sa hauteur.
Donc, il fait quelques à côté. Un peu illégaux, ce qui va, c'est par ce biais qu'il va être repéré par le parrain. Samira, sa compagne, travaille dans un supermarché, les caissières du supermarché. Ouais, c'est pas des gens qui roulent sur l'or, ils se rêvent d'une autre vie, d'une vie meilleure avec de l'argent et puis une vie où il pourrait avoir des rêves, quoi. Et voilà, il va se trouver, mais c'est à son corps défendant qu'il va escroquer, parce que pour raconter l'histoire, il est recruté par un parrain marseillais pour faire un casse informatique. Et au début il travaille juste pour faire sa casse informatique. C'est le patron du cube, cette officine, qui va en fait lui mettre le vice dans la tête, dans le crâne, en lui demandant contre indulgence de la justice
vis-à-vis de lui,
intérieure, ouais, de pirater, de mettre un programme annexe dans ce casse informatique pour pirater le programme. Et pouvoir faire tomber en flagrant délit le parrain et ses associés des Abruzzes et Serbes. Et c'est le fait que le flic lui dise d'introduire un logiciel pirate dans le programme,
qui lui donne l'idée
mon héros va dire, en fait, à malin, malin ennemi, et pourquoi pas moi.
Voilà.
Donc ils vont en introduire un deuxième.
Avec le risque que il joue gros parce que il est face à d'une part des parrains qui vont pas du tout apprécier qu'il les fasse tomber.
Il est très inconscient.
Et puis de s'imaginer que malgré tout 2 ans plus tard il va pouvoir récupérer 1 milliard de dollars d'euros et qu'il ne va rien se passer, quoi. Donc c'est vrai qu'il est inconscient et peut-être un peu naïf.
Son plan pouvait marcher parce que pourquoi le soupçonner, parce qu'il va quand même faire de la prison. Oui. Donc non, son plan pouvait marcher, il pouvait, les autres étaient censés se faire arrêter, pour certains ça va fonctionner, il pouvait raisonnablement penser passer inaperçu ensuite et aller récupérer son magot sur l'île de Man, qui est un paradis fiscal
oui.
En Europe. Quoi. Enfin, en Europe. À l'époque, quand j'ai écrit le bouquin, ça faisait encore pas, il n'y avait pas eu le Brexit, donc
ouais.
Effectivement, ça faisait partie vraiment de l'Europe. Enfin bon, c'est à deux pas, puis il y en a d'autres.
Ouais. Mais c'était compté sans Marco Tsabo, qui est un mec à la fois totalement aliéné. C'est un fou furieux, quoi.
Ah, c'est un fou. Oui, voilà. J'ai pas fait dans la dentelle avec ce personnage. Je me suis dit, tant qu'à faire, dans les bouquins précédents, j'avais déjà mis en scène de bons barjots. Mais alors celui-là, c'est vrai que autant je me suis lâché et il est complètement barré. Malgré tout, à un moment donné, dans le roman, j'explique un peu qu'on peut comprendre. Par rapport à ce qu'il a vécu dans son enfance dans l'ex-Yougoslavie. Il y a un passage pour... le type n'est pas né complètement barjot comme ça, il y a une explication.
Oui, il a basculé dans la folie.
Il est issu de la guerre, quoi. Donc, c'était un gamin au moment de la guerre dans l'ex-Yougoslavie, et c'est un enfant de la guerre, quoi. Traumatisé de cette guerre.
Ouais, par certains côtés, il fait un peu penser au Joker de l'univers Batman.
Alors, si vous le dites, mon cher Diego, c'est sans doute vrai. Je suis complètement étranger à l'univers de Batman et des Marvel en général. J'ai de très vagues notions, mais alors c'est pas du tout. J'ai dû voir des films quand j'étais petit de Batman, Superman, des choses comme ça.
Oui, oui.
Mais alors, c'est pas du tout mon univers, donc.
Oui, mais le personnage a été repris par en dehors de l'univers Marvel et des films Batman, mais ce personnage qui apparaît dans les Batman a une vie propre où on raconte en fait comment il devient le génie du mal qu'il est dans les Batman, quoi. Donc c'est une sorte de préquel qui n'est pas forcément autorisé dans le sens où il ne fait pas partie des Marvel, mais où on voit cet individu sombrer dans la violence, dans l'ultra-violence, tout simplement parce que c'est un malade mental dont personne ne veut s'occuper et soigner, quoi. Et donc,
j'ai des vagues notions de qui est, de ce qu'est le personnage du Joker, mais voilà, après, je n'ai pas pu en faire. C'est pas une référence au Joker, quoi, mon personnage, parce que c'est par hasard que c'est tombé sur à peu près la même configuration de dégénéré.
Ouais.
De forcené.
Oui, c'est le cas. Je pense que c'est vraiment le terme exact pour cet homme. Hein. C'est un forcené, mais au sens propre du terme, quoi. Il a vraiment des déviances sexuelles. Il est violent. Il n'hésite pas à tuer gratuitement. Donc c'est vraiment un anti-héros, mais vraiment délectable parce que c'est un vrai plaisir de lecteur de voir cette transgression systématique du personnage. Qui est capable de se débarrasser de ses propres lieutenants à partir du moment où ils ne lui servent plus à rien, ou du moins qu'il a l'impression qu'ils ne lui serviront plus.
Oui, voilà, il ne s'embarrasse pas, il n'y a pas d'affect chez lui. Ben, ça vient de la guerre aussi.
Oui.
Voilà, on a
fusil.
Il y a un fusible qui a sauté à ce moment-là,
ouais.
et il ne réagit pas du tout, il est imprévisible, totalement imprévisible. Et malgré tout, les gens qui l'entourent, le type, c'est pas un loup solitaire, il est à la tête d'une organisation, il a quand même des gens qui arrivent à travailler avec lui, tout en sachant qu'ils risquent leur vie d'une minute à l'autre. Il suffit que l'autre il pète un câble pour que son homme à tout faire, confident et tout, il l'exécute froidement d'une balle entre les deux yeux.
Ouais. C'est...
Oui, c'est un personnage à écrire, c'est assez...
C'est jouissif. Enfin,
oui, voilà, parce qu'on se permet tout avec ce genre de personnage.
Oui, tout à fait, tout à fait. Vous campez là, vos personnages, dans plusieurs lieux. Donc, j'ai déjà dit que vous étiez un familier de la montagne Sainte-Victoire. Vous habitez pas loin.
Oui.
En revanche, vous décrivez très, très bien un certain nombre de lieux au Pays de Galles, etc. Vous avez fait des repérages pour écrire le roman ou c'est parce que vous y êtes déjà allé et que vous vous êtes dit bah, « Tiens, je vais mettre en scène ces lieux ».
Voilà, c'est dans ce sens-là que ça marche. Je n'ai pas encore les moyens de me dire
«
Je vais faire des repérages ». Non, ça me coûterait cher sinon.
Un auteur à succès comme vous.
Bouquin. Et puis et surtout si je l'écris pas, si j'arrive pas à l'écrire ensuite. Non, c'est souvent le cas dans mes bouquins quand je décris des scènes. Enfin, décris des scènes. C'est vrai qu'ils sont souvent implantés dans les territoires, donc dans des régions ou dans des villes. C'est des villes où j'ai vécu. Où c'est des lieux où j'ai passé du temps. Donc effectivement, là, ça date d'un voyage que j'avais fait dans ce coin là, dans le Pays de Galles. Et puis mon épouse a de la famille, le nom m'échappe, à côté de.
Oui, j'allais dire, c'était
à côté de Liverpool, à Blackpool, voilà. Côté de Blackpool. Ouais. Ben, je trouve que c'est à Poulton, c'est ça. Si je me souviens bien le nom de la ville. Voilà, donc c'est des lieux que je connais complètement. Ce qui est utile pour les décrire.
Oui, oui. Alors, c'est utile pour les décrire, mais vous décrivez quand même aussi la façon dont on peut se déplacer d'un lieu à l'autre, parce qu'à un moment donné, votre personnage, votre héros, va se retrouver face à des suiveurs qui l'estiment être... pas forcément des policiers, mais peut-être simplement des gens qu'il a doublés et qui va réfléchir à la façon de leur échapper en faisant ce qui semble être le moins évident pour eux, mais qui va permettre de brouiller les pistes. Donc ça veut dire que vous avez une bonne connaissance aussi des moyens de transport sur place et la façon dont on passe de l'un à l'autre.
Oui. Et puis après, je me renseigne. Et puis quand on est romancier, il n'y a rien qui nous empêche d'imaginer aussi.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis mal placé pour dire que non.
Oui, voilà.
Je propose juste un petit passage à lire, parce que c'est toujours intéressant de lire. Un petit passage qui concerne un personnage... qui va avoir une importance très grande, alors que c'est un personnage plus que secondaire dans l'idée même qu'on se fait du fonctionnement, mais c'est souvent sur des personnages secondaires que repose le basculement des situations.
Serait-ce Angèle ?
Comment avez-vous deviné ? Eh oui, c'est un personnage secondaire, mais...
Je n'étais pas au courant. Hein,
ah non,
vous n'aviez rien dit, Diego.
Voilà. 11 mai 2019, elle l'avait retrouvé. Après 8 ans de vaines recherches, la chance lui avait enfin souri. Alors qu'elle songeait à renoncer, alors que la résignation menaçait de prendre l'ascendant, de gagner la partie. 8 longues années. Durant lesquelles elle avait élaboré des plans, des tactiques, toute une stratégie dans l'unique but de le retrouver. Et tous ces efforts n'avaient servi à rien. Toute cette énergie déployée pour un résultat nul. Jusqu'à ce que le plus pur, le plus irrationnel des hasards lui permette d'exaucer son vœu le plus cher, atteindre ce qui était devenu le but de sa vie, sa raison d'exister depuis qu'elle avait croisé sa route. Le plus irrationnel des hasards, ça n'était à pleurer. Elle l'avait reconnu et pourtant il avait beaucoup changé. Il était plus massif, le jeune homme frêle était devenu un homme à l'allure sportive, même s'il semblait un peu empâté. Ses cheveux étaient coupés courts et il arborait une barbe de quelques jours. Mais plus que tout le reste, c'était la dureté des traits de son visage qui l'avait frappé. Elle avait gardé le souvenir d'un jeune homme en proie encore à l'incertitude, au doute.
L'homme qu'elle venait de croiser semblait avoir banni ses sentiments de son apparence. Angèle se fit la réflexion que le jeune homme réfléchi avait cédé la place à un homme d'action. Là, c'est le petit grain de sable qui va réellement faire basculer la vie de notre escroc. Hein.
Oui, oui, oui. Et parce que, oui, je me dis, ils peuvent être sympathiques. Enfin, ce couple, ce jeune couple, escroc presque malgré lui, peut être sympathique. Il n'empêche qu'ils ont fait des dégâts. Alors, voler la Banque de France, effectivement, détourner des milliards, c'est un dégât. Mais humainement, parce que je ne sais pas s'il faut tout raconter pour les lecteurs, mais enfin, il va y avoir un faux casse, enfin, une prise d'otage, une vraie fausse prise d'otage dans une banque.
Mmh, oui.
Et donc, il y a trois personnes, dont Angèle, le personnage dont on vient de parler, qui vont être retenues une nuit dans la chambre forte d'une banque, avec deux hommes, dont Eric, notre héros,
le héros, oui,
malgré lui.
Mm-hmm.
Ils vont tout faire pour les rassurer, parce que le but, c'est pas du tout de les terroriser, c'est pas des vrais otages, c'est une vraie fausse, comme tout est une escroquerie, c'est une vraie fausse prise d'otage, sauf que pour les trois
otages, c'est
eux,
pas vrai.
Pour eux, c'est une vraie prise d'otage, et ça a des conséquences que je décris aussi pour les deux autres otages. Même si ils ont été très bien traités, si on a pris toutes les précautions, ils n'ont manqué de rien, ils ont été aux petits soins pour leurs otages, quasiment. On ne peut pas imaginer les dégâts que ça peut faire d'être pris en otage, ne serait-ce que pour une nuit. Et c'est ce qui va arriver, donc notamment aux trois personnages, dont une femme qui va finir par se suicider.
Oui.
Et Angèle, qui
est obsédée par retrouver.
Obsédée par son preneur d'otage.
Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent on pense, et c'est peut-être ça l'erreur qu'avait commise Eric, c'est qu'on pense au syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qui fait que souvent des otages peuvent donner des circonstances atténuantes aux preneurs d'otages, parce qu'ils créent liens pour se protéger, etc. aussi. Hein. Mais là, on voit qu'Angèle, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire qu'elle est réellement dans un désir de vengeance par rapport à cet homme qui lui a pris une nuit de sa vie en tant qu'otage. Mais visiblement, toutes les autres nuits depuis 8 ans,
Je ne pense pas qu'Eric ait pensé un seul instant au syndrome de Stockholm. Pour lui, à partir du moment où il a rassuré, il a bien traité ses otages pour une nuit, c'est comme si ça ne comptait pas. C'était une aventure. C'est une grosse erreur et c'est là l'ambiguïté du personnage. Ils sont bien sympathiques, ces escrocs, malgré eux. Ils ont quand même fait des dégâts. Et ce gros dégât, ça va se payer cher. Parce que, pour lui, c'était passé. Bon, ils avaient retenu ces trois personnes en otage pendant une nuit. Ils les avaient nourris. Ils avaient de quoi dormir de façon agréable. Ils n'ont jamais été terrorisés ou menacés d'une arme. Simplement, on leur intimait de faire ci, de faire ça, mais ils ont essayé de prendre ça. Et puis, une fois le matin, la prise d'otage terminée, on les oublie.
On passe à autre chose.
Et non, ça a des conséquences.
Tout à fait.
On prend pas des gens impunément en otage. On pense, ils n'ont pas pensé du tout aux dégâts qu'ils pouvaient faire à ce moment-là.
Tout à fait. Eh ben, on va clore peut-être sur ces considérations. Donc, je rappelle que nous recevions Philippe Paternoli pour La Mort Imaginale aux éditions du Caïman, un très bon polar complexe et jouissif à la fois. Donc, merci beaucoup, Philippe.
Merci. Et puis, je vais juste rajouter, en avant-première, c'est pas encore officiel, mais Ce roman est en sélection pour un très beau prix décerné chaque année dans le monde du polar. Voilà.
D'accord.
Je n'en dirai pas plus parce que
d'accord.
On ne peut pas encore dire quel prix.
D'accord. Alors, on ne le dira pas, mais en tout cas, il voilà. est sélectionné à juste titre parce qu'il est excellent. Merci
Donc,
beaucoup,
Diego,
Philippe.
Vous avez bon goût. Merci à vous.
À bientôt.
Merci, au revoir.
Merci, voilà. Au revoir.
Merci à Philippe Noni qui était aussi avec nous en studio et à Diego à Rabal. Hein, pour,
mais je lui ai laissé la main parce que
bah,
le polar, c'est...
Voilà,
je ne peux être qu'admiratif quand Diego parle de polar.
Ouais. On se retrouve la semaine prochaine, vous revenez.
À la semaine prochaine.
Merci, un jour en livre.
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Bon, vous avez une semaine pour réfléchir à la porte
restreinte. Une semaine pour réfléchir et se préparer. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.